RFI. Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Depuis près de 6 mois, une nouvelle unité de soins est venue renforcer l'offre médicale au sein du centre hospitalier mère-enfant Le Luxembourg à Bamako, un centre dédié à la cardiopédiatrie. Cette spécialité dans la spécialité permet d'opérer directement au Mali des enfants qui jusque-là devaient être transférés vers le Maghreb ou l'Europe pour y subir des interventions aussi précises que vitales. C'est la chaîne de l'espoir, cette ONG qui offre des solutions chirurgicales à des enfants d'une trentaine de pays en développement, qui a financé ce nouveau pôle en optant pour une prise en charge in situ, en investissant directement au cœur des infrastructures, des moyens associés à la dispense de formation des acteurs de santé locaux. Et c'est dans ce centre de soins André Festoc que le 10 septembre dernier, une fillette a subi une opération à cœur ouvert. Une première pour le pays, une première aussi pour la région ouest africaine, réalisée par une équipe chirurgicale malienne en collaboration avec des équipes venues de Toulouse et de Nantes. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous recevons l'un des acteurs de cette nouvelle page qui s'ouvre pour la santé cardiaque et pédiatrique au Mali, le professeur Mamadou Bokary Diarra. Professeur Mamadou Bokary Diarra, bonjour.
Bonjour madame.
Je vous appellerai professeur même si vous m'avez dit tout à l'heure que vous préfériez qu'on vous dise docteur.
Docteur.
Tant pis pour vous.
Merci.
Vous êtes médecin hospitalier, médecin spécialiste en cardiologie, directeur général du centre hospitalier mère-enfant Le Luxembourg de Bamako. Opération du 10 septembre, fruit d'une collaboration franco-malienne avec au sein donc de cette équipe chirurgicale le docteur Baba Ibrahima Diarra, chirurgien cardiovasculaire. Nous serons en ligne avec lui tout à l'heure au cours de l'émission. Coopération médicale franco-malienne, hein, je le disais, aujourd'hui comme hier, stage, séjour nord-sud, apprentissage, partage d'expérience. Le docteur Baba Ibrahima Diarra a fait ses classes. Comme on dit, il a été stagiaire du professeur Emmanuel Martineau, chirurgien thoracique et cardiovasculaire, auteur de la première greffe de trachée artificielle. Nous lui donnerons aussi la parole. Et puis, nous serons en ligne avec le docteur Jérôme Boumbi, cardiologue à l'hôpital général de Yaoundé, pour évoquer avec lui la situation de votre spécialité commune à la cardiologie, mais cette fois vue du Cameroun. Et en fin d'émission, vous retrouverez la chronique sport de Jean-Marc Sen, hein, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et bien sûr, si vous avez des questions et vos témoignages, on les attend sur notre page Facebook et à notre numéro de téléphone, le 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Alors bien sûr, professeur Mamadou Bokary Diarra, on va revenir longuement sur les conditions de cette opération du mois de septembre, première opération à cœur ouvert qui avait été largement relayée dans la presse comme sur notre antenne. On va parler de votre parcours globalement, de la situation de la cardiologie, de la chirurgie cardiaque au Mali, mais tout d'abord, si vous le voulez bien, une petite question. Comment se porte Fanta, cette petite fille hein, dont on avait appris à reconnaître le visage, cette petite fille qui a été opérée à l'unité de soins André Festoc le 10 septembre dernier, comment se porte-t-elle aujourd'hui?
Je l'ai vue juste avant de prendre l'avion pour Bamako. Elle se porte merveilleusement bien, mais il y a surtout tout un espoir qui est né dans cette famille, parce qu'elle vivait dans l'inconnu, dans le désespoir, dans une tristesse profonde de savoir que leur fille a mal au cœur et que peut-être elles n'auront jamais l'occasion de la faire opérer. Donc c'est l'entourage, la famille, la communauté qui revivent avec cette nouvelle donne.
Ça veut dire qu'avec cette maladie cardiaque qu'elle avait, cette anomalie cardiaque par exemple, elle ne pouvait pas vivre comme les autres enfants de son âge.
Elle était très handicapée parce qu'elle était essoufflée au moindre effort. Sa maman était dans l'angoisse, dans l'incertitude. Elle n'a pas du tout les moyens. Il faut savoir que la chirurgie cardiaque coûte excessivement cher. Elle n'avait pas les moyens ni l'espoir de faire opérer un jour cet enfant-là. Mais avec l'ouverture du centre et avec l'aide de la chaîne de l'espoir, une nouvelle page est tournée et elle mord la vie à pleines dents aujourd'hui.
Ça veut dire que, par exemple, elle retourne à l'école, elle a repris le cours d'une vie normale?
Elle a repris complètement le cours d'une vie normale et elle n'a plus l'angoisse, elle a le sourire, elle s'épanouit bien et c'est mieux pour elle.
Ça retire un sacré poids, j'imagine, pour toute la famille.
Pour toute la famille, ça nous donne des raisons. Ça nous fait croire que ce que nous sommes en train de faire va dans le sens du bien. Nous n'avons jamais douté, mais ceci nous réconforte dans notre démarche.
On touche vraiment l'utilité. Et j'imagine que depuis cette première, il y a eu d'autres opérations du même type,
Il y a eu d'autres opérations du même type et le centre Festoc est le bienvenu. Mais le centre Festoc, lui seul, ne suffirait pas. Il faut beaucoup de centres Festoc, mais c'est déjà bien de commencer avec ce centre-là, parce que ça prouve à tout le monde que c'est possible et que c'est une réalité et que le bénéfice est tout entier.
Des exemples, des réussites, on en a besoin pour aller plus loin.
On en a besoin pour aller plus loin, on en a besoin pour convaincre, on en a besoin pour mobiliser surtout les fonds nécessaires, parce que le centre Festoc, ce n'est pas de la mer à boire. Ça a coûté 2 millions d'euros et 2 millions d'euros, je connais beaucoup de gens en République du Mali qui pourraient offrir cette somme-là ou se réunir pour regrouper des sommes de ce genre pour d'autres villes du Mali ou alors à d'autres endroits de la capitale malienne.
Parce que ce que ça montre aussi, c'est que une fois que l'argent est là, la compétence malienne est présente et ça c'est très important. Vous avez les ressources, vous avez les professionnels pour justement assister cette communauté, pour assister tous ces malades.
Le professeur Deloche, mes prédécesseurs, ça fait des années, je dirais des décennies que nous nous battons pour l'ouverture d'un tel centre. Le professeur Deloche et moi, nous avons essuyé tellement de désillusions pour que ce centre puisse voir le jour. Donc vraiment, ce centre est le bienvenu et nous remercions vivement du fond du cœur Madame Festoc pour ce geste de générosité envers un autre peuple. C'est un individu dans un pays différent, d'une religion différente, d'une culture différente, qui a quand même eu cet élan de cœur, de générosité pour venir en aide à d'autres enfants.
Alors justement, j'explique pour les auditeurs qui ne sont pas forcément au courant, les deux noms que vous avez cités, le professeur Deloche qui est le créateur de la chaîne de l'espoir, justement qui finance cette structure, et puis Madame Festoc qui a donné une très importante somme d'argent. C'est pour ça que le centre porte le nom de son défunt époux. Et donc, qui a permis le financement de cette structure de santé, on peut dire, de pointe. On va revenir à votre parcours personnel, professeur Mamadou Bokary Diarra. Cette spécialisation en santé cardiaque, quand vous l'avez choisie, dans le Bamako des années peut-être 80 à peu près, est-ce que c'était quelque chose de vraiment nouveau? Vous aviez fait cette formation, non au Mali, mais à Abidjan, pourquoi? Cette spécialisation, précisément?
C'est ça. Je suis venu à une... J'ai commencé la médecine à une période où les choses n'étaient pas aussi évidentes que cela, parce que je dois être la 8e ou 9e promotion de l'École nationale de médecine et de pharmacie. Et donc, après, je suis allé en campagne, j'ai été médecin de brousse pendant 5 ans. Et j'ai toujours voulu aller un peu plus loin. Donc j'ai saisi l'opportunité qui s'offre à moi. J'ai commencé d'abord en Tunisie avec le professeur Ali Bousnina, avec le docteur Sibelani. Et nous avons passé 1 an et quelques à Tunis. Après, seulement, je n'avais pas de prise en charge, donc je me suis rabattu sur la Côte d'Ivoire. Et c'est là que j'ai fini mon CES. C'est à l'époque, ça s'appelait CES de cardiologie. Et après, j'ai fait de petites spécialisations en Bretagne, à Paris, etc., pour compléter ma formation. Donc, je suis un sac à dos. Et je ne suis pas l'élite de la médecine, mais j'ai toujours eu la volonté farouche de faire un geste pour le pays, parce que la cardiologie n'était pas le premier souci à l'époque, mais quand même on sentait la montée en puissance de cette pathologie-là et il fallait vraiment faire quelque chose dans ce sens-là.
Santé cardiaque et pédiatrie, puisque c'est l'hôpital mère-enfant. J'aimerais que vous reveniez aussi sur ce choix de soigner des enfants.
Soigner des enfants, c'est au cours de mon CES. D'abord cardiologie, parce que j'ai eu l'honneur d'être un des tout premiers élèves d'un cardiologue. J'ai apprécié son parcours, j'ai apprécié son humanisme, j'ai apprécié son dévouement pour les patients. C'est le professeur Mamadou Kouréchi Touré qui a été un de mes tout premiers maîtres. Et pédiatrique, parce que lors de ma formation, j'ai rencontré le professeur Maurice Gikawe à Abidjan. Et j'ai vu entre la cardiologie de l'adulte et la cardiologie de l'enfant, le bénéfice était beaucoup plus grand du côté des enfants parce qu'il y avait des guérisons pratiquement totales, alors que la cardiologie de l'adulte, c'est souvent pas vraiment un bénéfice, mais c'est
une amélioration
de l'état. C'est passer d'une maladie très grave à une maladie moins grave. Donc je me suis dit, dans nos pays en voie de développement où les ressources sont limitées, il vaut mieux faire le choix vers une médecine qui guérit, et en cardiologie pédiatrique, on a beaucoup de chances de guérir ces enfants-là. Donc, c'est un choix qui est dicté par une raison, la raison d'avoir des résultats beaucoup plus concrets et surtout immédiats.
Et justement, illustration, professeur Mamadou Bokary Diarra, cette fameuse opération du 10 septembre à Bamako, pour les auditeurs de Priorité Santé, on n'est pas forcément familier avec le terme opération à cœur ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Opération à cœur ouvert, parce que l'affection est tellement grave, la cardiopathie est tellement grave qu'on ne peut pas se contenter d'opérer autrement qu'en arrêtant le cœur. Il faut arrêter le cœur, il faut passer par une circulation extracorporelle qui va remplacer le cœur et les poumons le temps de l'intervention. Il faut ouvrir le cœur, il faut corriger l'anomalie, après il faut tout réformer et repasser à la circulation normale. Donc c'est ça la chirurgie à cœur ouvert. Donc ça prend du temps, ça demande une technicité et une expertise que nous n'avions pas auparavant. Il faut savoir que même si nous avons essuyé des désillusions avec le professeur Deloche, nous avons quand même l'espoir que ça va venir un jour dans nos pays, parce que chacun aspire à grandir, à se développer, et donc nous n'avons pas attendu ce jour-là pour commencer nos formations. Depuis que l'espoir a commencé à pointer à l'horizon, nous avons envoyé des gens en formation. Ça fait à peu près 4 ou 6 ans que mes élèves sont en formation à travers l'Europe. Et pour préparer justement l'ouverture de ce centre-là. Ceci dit, ils ne sont pas complètement au point. C'est pour cela que j'ai demandé à la chaîne de l'espoir de nous accompagner encore un certain temps, parce que si nous commençons nos interventions avec des hécatombes, il va de soi que les gens vont tourner le dos, ça va discréditer le centre. Donc je demanderai à la chaîne de l'espoir d'être encore présente, même si elle n'est pas au premier rang, d'être encore présente pour que vraiment ce centre puisse mûrir, grandir et acquérir la confiance des autorités maliennes.
Alors justement, ce jour du 10 septembre, décrivez-nous un petit peu l'équipe qui est intervenue pour opérer la petite fille.
Il y avait l'équipe malienne qui était là comme second couteau, et puis il y avait l'équipe de Nantes qui était là avec le professeur Olivier Baron. Et donc vraiment tout s'est extrêmement bien passé. Les gens ont adhéré, les Maliens sont demandeurs, ils sont volontaires. Et ils voudraient apprendre, ils ont la soif d'apprendre, et vraiment ça a motivé énormément et ça a réconforté ceux qui sont venus de l'étranger pour nous prêter main forte.
Alors vous restez avec nous, professeur Mamadou Bokary Diarra. On va rejoindre tout de suite Bamako, hein. On va rejoindre l'un des membres de cette équipe chirurgicale. Ces blouses bleues en train d'opérer en septembre dernier, eh bien vous étiez de ceux-là. Docteur Baba Ibrahima Diarra, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes chirurgien cardiovasculaire, justement dans ce centre hospitalier Mère-Enfant Le Luxembourg. Est-ce que vous gardez des souvenirs particuliers de cette journée du 10 septembre, de cette opération de septembre dernier, cette première opération à cœur ouvert ?
J'en garde de très bons souvenirs parce que, après plusieurs années passées à l'extérieur, à faire des stages par-ci par-là, venir enfin chez soi et participer à cette première intervention chez une fille que j'ai vue presque toutes les semaines, 3 mois à l'avance. Vraiment, c'était l'aboutissement de. En fait, je voyais les années défiler, quoi. C'était très fort et ça, c'est les choses qui marquent la vie, en fait.
Vous voyez les années de tout ce travail de formation, vous voyez aussi les années de vie de cette petite fille avec l'espoir qui s'offre à elle. Est-ce qu'avant d'opérer cette petite fille, vous aviez déjà procédé à cette opération très technique, opération à cœur ouvert?
Oui, bon, je dirais que bon, durant ma formation, j'ai eu à participer avec des chirurgiens, d'autres chirurgiens d'autres pays, notamment le Sénégal, la Tunisie, la France, avec d'autres Tunisiens, avec Chili, avec qui j'ai opéré ce type de pathologie, mais pas chez une compatriote. C'était ma première intervention de ce type sur le sol malien, donc du coup ça fait que c'était vraiment spécial.
Parce qu'il y avait aussi la portée de pouvoir utiliser son savoir chez soi et également la reconnaissance du pays. Est-ce que vous avez senti justement après l'opération une forme de reconnaissance bien sûr de la famille de la petite fille, mais aussi autour de vous un regard qui avait changé?
Oui, tout à fait. Il faut savoir que c'est une spécialité qui n'est pas très connue au Mali. Du coup, bon, au début, les gens sont un peu sceptiques quant à l'idée d'opérer le cœur humain, l'arrêter, l'ouvrir, travailler là-dessus, le refermer, le refaire battre à nouveau. C'est un concept auquel les gens n'étaient pas très habitués jusqu'à septembre. Et là, les gens commencent à s'y habituer un petit peu. Et concernant le côté gratitude et tout, bon... Et moi, honnêtement, que voilà, ça a changé déjà la famille. Qui achetait tout le temps, qui renouvelait tout le temps des médicaments depuis son opération. Elle ne prend plus du tout de médicaments. Et pour nous, ça, c'est une grande satisfaction de voir quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir des ordonnances qui sont renouvelées tout le temps et qui avait mal à jouir convenablement avec ses camarades, qui voit tout d'un coup, après une opération et une semaine d'hospitalisation, sa vie basculer favorablement. Et c'est... Rien que ça, pour moi, c'est déjà une grande chose, en fait.
Alors, cette petite fille qui va bien, on voit bien que cette fois, l'équipement, hein, ce plateau chirurgical est à la hauteur des enjeux de santé. Un plateau chirurgical qui est aussi, finalement, à la hauteur de votre formation. Est-ce que c'était, justement, on imagine que oui, la première fois qu'au Mali, vous aviez à disposition le matériel à hauteur de vos compétences?
Je dirais qu'un plateau technique de ce niveau, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je sais que ça, c'est vraiment un coup de chance de finir sa formation et de tomber sur un plateau technique qui nous prend aux normes internationales. Pour moi, c'est un message de Dieu. Et je pense que j'ai une mission et ma mission, c'est vraiment de partager toutes ces années avec les Maliens et de me mettre à leur service.
Et depuis le 10 septembre, combien d'enfants opéraient dans ces conditions?
Alors, depuis le 10 septembre, nous avons opéré au total 58 patients. 58 patients, dont 48 à cœur ouvert et 10 cœurs fermés.
Quand les personnes se réveillent, elles vous parlent, qu'est-ce qu'elles vous disent?
La première chose, c'est où est-ce que je suis, qu'est-ce que vous m'avez fait, qu'est-ce que vous avez fait sur mon corps et tout. Bon. En général, c'est ça, mais ils demandent à voir leurs parents.
Le chirurgien, c'est accessoire. Ce qui compte, c'est surtout de voir son papa et sa maman après une opération, surtout quand on a un jeune âge, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, tout à fait. En général, on demande aux parents de rester à côté et à réanimation. Et dès qu'ils sont réveillés, on demande aux parents de passer leur rendre visite. Ça permet aussi de les calmer.
Docteur Baba Ibrahima Diarra, c'est vous qu'on a en ligne aujourd'hui, mais c'est ce qui s'est passé le 10 septembre et ce qui se passe tous les jours dans votre hôpital, dans cette chirurgie cardiaque, eh bien, c'est bien le travail de toute une équipe.
Oui, tout à fait. C'est vraiment le travail d'une équipe vraiment au vrai sens du terme. Il s'agit des cardiologues, des chirurgiens, des anesthésistes réanimateurs. Vraiment, c'est une équipe formidable au sein de laquelle nous avons, il y a deux autres chirurgiens, un docteur Koulibaly, un docteur Doumbia, comme chirurgien, et comme anesthésiste réanimateur, il y a docteur Koulibaly, Mohamadoun, et il y a docteur Simon Kouita aussi, qui sont réanimateurs. Et en cardio, nous avons le professeur Diarra et docteur Asmaou Keita, à qui vraiment il faut un vibrant hommage, et le personnel paramédical aussi, qui fait un gros travail tous les jours. C'est pas facile, c'est un début, et nous allons y arriver.
Merci pour ce témoignage, hein, docteur Baba Ibrahima Diarra. Je rappelle que vous êtes chirurgien cardiovasculaire au sein du centre hospitalier Mère-Enfant, le Luxembourg.
RFI à Bamako, 98.5 FM.
L'émotion d'opérer chez soi, comme le disait à l'instant le docteur Ibrahima Baba Diarra, chirurgien, qui a été votre stagiaire professeur, Emmanuel Martineau. Bonjour.
Bonjour.
Chirurgien thoracique, hein, c'est à votre équipe de l'hôpital Avicenne de Bobigny en région parisienne que l'on doit une première mondiale. Grève de trachée artificielle, c'était au mois de mai dernier. Professeur Martineau, aujourd'hui, justement, je voulais vous parler de cette collaboration, de cette coopération avec des chirurgiens, de jeunes médecins venus du Sud, en particulier le docteur Ibrahima Babadiara. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous décrire dans quelles circonstances, d'abord, vous avez travaillé avec lui ?
Eh bien, avant tout, je souhaiterais d'abord saluer le professeur Diarra, directeur de l'hôpital, qui est en plateau. J'ai été très ému, parce que je viens d'entendre le docteur Diarra, donc j'appellerai aujourd'hui Ibrahima, hein, qui en effet a été pendant un an dans le service. Je salue aussi le professeur Yena et le docteur Maïga à Bamako. Écoutez, déjà, je peux rendre hommage à Ibrahima, hein, le docteur Diarra, parce qu'il a été apprécié du service. Vraiment, il est resté un an. On l'a beaucoup apprécié. Je salue aussi tout ce qui a été fait, et c'est marrant, l'histoire se rejoint un peu, puisque la chaîne de l'espoir a été fondée par le professeur Deloche, et moi j'ai effectué mes travaux de recherche dans le laboratoire du professeur Alain Carpentier, et c'était bien sûr le patron Alain Carpentier, son adjoint le professeur Deloche.
C'est une grande famille, la cardiologie.
C'est une grande famille de Brousset à l'époque, hein, moi je les ai connus là-bas. Voilà, alors aujourd'hui on accueille on accueille des internes dans le cadre d'un ce qu'on appelle un DFMS, c'est un diplôme formation médicale. Ce qui a changé en 2009, c'est que c'est un concours. Donc c'est des médecins africains, là actuellement on a un médecin qui vient du Vietnam, du Mali, on a des médecins chinois, ils passent un concours depuis 2009, c'est un concours, donc c'est des gens particulièrement motivés. Nous-mêmes on est très heureux de les accueillir. Alors, j'ai eu quand même pas mal d'émotions parce qu'en un mois, le 10 septembre, j'ai entendu cette nouvelle. Alors, Ibrahima m'avait prévenu avant, mais je suis allé aussi rendre visite à un ancien interne qu'on avait eu à Shanghai et j'ai vu que lui aussi avait évolué de façon incroyable. Et je peux vous dire que c'est vraiment des très grandes satisfactions pour nous de voir ses accomplissements aujourd'hui. D'internes, hein, à l'époque on les a eus comme internes, qui étaient dans le service et on a encore beaucoup de contacts bien sûr.
Avec beaucoup de chemin parcouru, on ne parle pas de prouesse technique bien évidemment, c'est pas l'objet, mais bien de performance médicale qui offre de véritables solutions à des patients tout simplement pour aller mieux. Justement vous aussi, professeur Emmanuel Martineau, vous avez connu ce genre d'événements médiatisés, mais dès que c'est terminé on se remet au travail, c'est bien ça?
Ah oui, complètement. D'ailleurs, de notre côté, pour les greffes trachéobronchiques, j'ai encore vu 3-4 patients hier. Oui, bien sûr, hein, de toute façon, j'ai entendu qu'il y avait 58 patients qui avaient été opérés depuis le 10 septembre. C'est quand même...
C'est phénoménal.
Oui, c'est extraordinaire. Je suis très admiratif.
Et en tout cas, c'est une véritable illustration des bienfaits de cette coopération Nord-Sud en matière médicale et en général en matière d'études. Merci, hein, merci beaucoup, professeur Emmanuel Martineau, de nous avoir accordé de votre temps. Je me retourne vers vous, professeur Mamadou Bokary Diarra, on voit ces élèves brillants qui viennent du Mali, qui deviennent des chirurgiens, toute cette collaboration Nord-Sud, vous aussi, ça a été votre cheminement pour retourner ensuite diriger cet hôpital à Bamako, justement très important d'avoir cet échange, ce partage de savoir, de culture et de compétences.
Du fond du cœur, je remercie le professeur Martineau d'avoir accepté de transmettre une partie de ses connaissances à mes jeunes compatriotes. Et nous souhaiterions vraiment que cet échange puisse durer le plus longtemps possible, tant que nous ne serions pas à même de créer dans nos pays les structures nécessaires pour la formation, mais aussi les compétences pour ce genre de formation. Nous souhaiterions lancer un vibrant appel pour l'ouverture des portes, pour permettre à nos gens d'acquérir cette expérience, ne serait-ce que par simple humanisme. Parce que pour venir en Europe aujourd'hui, c'est vraiment un parcours de combattant. Personnellement, j'ai mis des semaines, voire des mois, pour pouvoir obtenir un visa d'entrée en France. Nous souhaiterions que ces mesures s'assouplissent pour qu'il y ait un vrai échange entre praticiens, entre maîtres et élèves, pour le bonheur de ces enfants qui attendent depuis des mois, depuis des années, pour qu'enfin on puisse les prendre en charge sur le plan chirurgical. C'est une parenthèse.
Mais c'est une parenthèse importante. En tout cas, dans tout ce qu'on entend, professeur Mamadou Bokary Diarra, on entend votre insistance sur un point. Il y a eu ce 10 septembre, il y a eu cette opération, il y a eu cette première. Mais ce que vous nous dites depuis le début de cette émission, c'est que c'est un jalon et que derrière, il faut continuer, il faut des moyens, il faut des hommes, il faut justement continuer à retrousser ses manches parce que ce ne sont que de toutes premières étapes.
Oui, parce que le visage de la santé est en train de changer, d'évoluer. Au tout début, on était dans les grandes épidémies, la maladie du sommeil, le paludisme qui est encore d'actualité, la tuberculose, que sais-je encore. Aujourd'hui, le visage de la santé a évolué. Ce sont les pathologies
non transmissibles,
les maladies non transmissibles qui sont au premier plan. Cancer, cardiopathie, hypertension artérielle, etc. Nous devions, c'est un devoir pour nous de nous reconvertir, de passer des soins de l'époque, je dirais, moyenâgeuse, à l'époque moderne d'aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes obligés de former, de reconvertir nos hôpitaux, nos dispensaires, pour faire face à une situation, je dirais presque nouvelle, mais quand même criarde. Et si nous devions faire ceci, il va de soi que tout le monde s'y mette. La santé ne peut pas être réservée au seul domaine des spécialistes de la santé. La santé, tout le monde doit interférer, mettre les synergies ensemble, mutualiser nos efforts. Le développement doit passer aussi par la santé. Et le développement doit appuyer la santé pour que cette santé puisse aller de l'avant.
Voire même, on peut même considérer que la santé, c'est le socle du développement, comme l'est également l'éducation.
C'est un des socles du développement. Un peuple malade ne peut pas se développer. Tout le monde est unanime que la santé, c'est la priorité des priorités. Mais quand il faut passer à l'acte, les décideurs souvent traînent des pieds. Parce que le bénéfice ne paraît pas évident et immédiat. Mais c'est un passage obligé pour assurer le développement d'un peuple.
Surtout dans des régions, c'est un autre débat, où les budgets de sécurité ont pris beaucoup aux autres budgets. Professeur Mamadou Bokary Diarra, une question qu'on a abordée, c'est donc cette question du financement, de la formation. Il y a l'apport matériel, bien sûr, avec le projet de la chaîne de l'espoir, l'apport matériel avec le bâtiment, le bloc, la formation. Et quand on parle de matériel en Afrique, il y a un point essentiel, c'est la maintenance. Comment est-ce que vous avez prévu les choses, justement, pour que ce plateau technique, on l'a souligné, on l'a compris tout à l'heure, super performant, reste utilisable sur le long terme pour que les enfants puissent continuer d'en bénéficier sur le long terme? On sait qu'en Afrique, il y a de gros, gros problèmes de maintenance. Est-ce que tout a été fait pour que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, tout cela reste opérationnel?
La maintenance, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment le nerf de la guerre. Il y a tellement de matériel jeté, faute de maintenance.
Entreposé, abandonné,
on achète encore du neuf. C'est des dépenses outrageuses, vis-à-vis de nos pauvres budgets et de nos maigres budgets de santé. C'est vraiment des dépenses outrageuses. Nous avons dès le souci. Dès le départ, nous avions le souci de former des maintenanciers, d'avoir des circuits d'approvisionnement en pièces de rechange, d'harmoniser le parc technique, c'est-à-dire avoir affaire à un seul fournisseur ou à une seule compagnie, plutôt que de multiplier les compagnies et d'être obligé de nous disperser dans des efforts de relation. La maintenance, nous ne pourrions pas avancer sans cette maintenance-là. Si nous ne pouvions pas faire la maintenance, nous sommes obligés d'acheter à chaque fois du matériel neuf et nos budgets, tels qu'ils sont, ne pourront pas supporter.
Et c'est vrai que le grand public n'est pas forcément sensible à cette question, mais pourtant c'est très concret. Simplement, quand on n'a plus les pièces de rechange, quand on n'a pas les techniciens pour que ça continue à fonctionner, eh bien, une radio, un appareil de réanimation, eh bien, tout ça, ça ne marche plus. J'aimerais qu'on revienne, professeur Mamadou Bokary Diarra, si vous le voulez bien, à un point particulier. Tout à l'heure, on a parlé de votre spécialité, la cardiologie. On a parlé de cet hôpital qui prend en charge particulièrement les enfants, ce secteur pédiatrique. J'aurais aimé que vous me disiez quelques mots justement sur cette spécialité quand on est un enfant, quand on souffre de problèmes de cœur. Est-ce qu'il y a des maladies cardiaques pédiatriques spécifiques qui diffèrent de celles des adultes ?
Oui, il y a des maladies cardiaques pédiatriques qui diffèrent de celles des adultes. On les appelle généralement les cardiopathies congénitales. Ça veut dire que l'enfant naît avec cette maladie-là. C'est, selon les pays, c'est 6 à 8 pour 1000 naissances. Il y a un problème cardiaque. Donc, c'est une frange de la population vraiment non négligeable. À l'hôpital mère-enfant, aujourd'hui, nous avons une liste d'attente de 3000 enfants. 3000 enfants, cette liste est loin, loin d'être exhaustive.
Liste d'attente pour une chirurgie.
Pour une chirurgie. Et cette liste est de loin, loin d'être exhaustive. Cette pathologie pédiatrique n'avait pas de répondant. C'est grâce à la chaîne de l'espoir qui est une lueur d'espoir. Il y a des enfants qui attendent depuis 10 ans, 15 ans.
Est-ce que vous avez l'espoir justement que cette liste d'attente soit un petit peu
allégée,
mais elle ne sera jamais nulle.
Elle ne sera jamais nulle, puisque la liste, il y a des nouveaux patients qui s'ajoutent à la liste de façon régulière, je dirais presque tous les jours. Mais il y a aussi que des enfants attendent longtemps, longtemps avant de bénéficier d'une prise en charge. Donc ces enfants aujourd'hui sont des adultes. En Afrique, chez nous, c'est difficile de sérier complètement. Dire que vous êtes un enfant, vous ne pourrez pas bénéficier de cette chirurgie. Du moins, vous êtes un adulte, vous ne pourrez pas bénéficier de cette chirurgie. Parce que nous sommes des patients, nous ne sommes pas des commerçants avec des rayonnages. Et quand quelqu'un frappe à notre porte, le premier souci, c'est de lui porter aide et secours. Et je vois mal un adolescent qui a ma consultation de façon régulière depuis 15 ans. J'ai presque 30 ans de service, sinon plus. Et que je lui dis, non, c'est pas ton tour, non, vous êtes
trop vieux,
je ne pourrais pas m'occuper de vous. Donc, en ces débuts, c'est bon de reconsidérer nos positions et d'être moins strict et moins rigoureux au point de vue âge. C'est pour cela que je fais un plaidoyer pour que vraiment nous passions de la chirurgie purement pédiatrique à une chirurgie mixte, c'est-à-dire où quelques jeunes adolescents dont la prise en charge serait relativement simple puisse bénéficier de ce centre André Festo.
D'ailleurs, c'est aussi une réflexion qui se fait dans pas mal d'hôpitaux français hein, d'élargir la pédiatrie avec des unités jeunes adultes quand justement ces jeunes malades passent 18 ans, 19 ans, 20 ans pour qu'ils ne soient pas complètement remis entre une médecine d'adultes qui des fois leur est un petit peu étrangère. Professeur Mamadou Bokary Diarra, vous restez avec nous. On va voir quelle est la situation justement en matière de cardiologie du côté du Cameroun.
Priorité santé sur RFI.
Avec en ligne le docteur Jérôme Boumbi. Bonjour docteur.
Bonjour Caroline.
Vous êtes cardiologue à l'hôpital général de Yaoundé. Alors, est-ce qu'il existe aujourd'hui des structures de chirurgie cardiaque, à l'image de celles dont on parle depuis le début de cette émission avec le professeur Diarra, est-ce qu'il existe des structures de ce type au Cameroun, docteur Boumbi?
Des structures exactement que celles dont parle le professeur Diallo, pas véritablement, mais la chirurgie cardiaque au Cameroun a une histoire un peu longue. En effet, les premières opérations de chirurgie cardiaque ont eu lieu en 1985 par des missions de chirurgie cardiaque avec la collaboration d'une équipe marseillaise. Durant ces opérations, à peu près 83 patients ont été opérés sur 5 ans. Ensuite, nous avons eu à peu près une période de mort à cause de la crise économique, pendant laquelle on s'est plutôt appuyé sur les deux instituts humanitaires tels que la chaîne de l'espoir et Médecine Chirurgie Cardiaque permettant nous d'envoyer nos patients être opérés en France. Mais depuis 2009, il existe au Cameroun un centre confessionnel catholique qui est tenu par les missionnaires en collaboration avec une équipe italienne où on a une chirurgie pérenne des patients qui nécessitent une chirurgie cardiaque. Et également, depuis 2012, l'hôpital général de Douala mène des missions de chirurgie cardiaque régulièrement en collaboration avec une équipe belge.
Vous nous parlez de Douala, d'une autre structure de chirurgie cardiaque. Ça veut dire que, par exemple, chez vous, à Yaoundé, il n'y a pas d'unité de chirurgie cardiaque de façon permanente, de façon régulière?
À Yaoundé, il n'y a pas d'unité de chirurgie cardiaque de façon permanente. Cependant, en 2008, nous avons eu à l'hôpital général de Yaoundé des missions de chirurgie cardiaque. Et actuellement, l'hôpital est en pleine restructuration avec en prévision l'installation d'un pôle d'excellence de cardiologie avec en bonne place la chirurgie cardiaque qui devrait être menée à l'hôpital général de Yaoundé de façon pérenne.
Docteur Boumbi, aujourd'hui vous êtes cardiologue dans cet hôpital général. Ça veut dire que quand quelqu'un vient vous voir avec une pathologie qui nécessiterait une opération, qu'est-ce que vous lui dites justement quand ce diagnostic est urgent, quand il y a une opération qui devrait être effectuée rapidement, s'il y a un pronostic vital engagé? Comment on fait quand on est cardiologue et qu'on n'a pas de chirurgie à disposition pour trouver une solution pour ces patients? Comment est-ce que l'on fait?
Situation assez difficile à gérer. En effet, quand il s'agit d'une urgence chirurgicale de premier degré, nous risquons fort de perdre le patient. Mais quand l'urgence peut être différée, nous pouvons référer le patient au centre de chirurgie cardiaque de Chiffon, qui est situé dans la région du nord-ouest du Cameroun, à peu près à 6 heures de route de Yaoundé. Mais le plus souvent, le problème chez nous n'est même pas la prise en charge en termes de plateau clinique. Mais la plupart de nos patients ne sont pas souvent capables de payer dans l'immédiat une chirurgie cardiaque, car ces interventions sont à la charge des patients. Et tenez-vous tranquille, une intervention de chirurgie cardiaque coûte entre 3 millions et 4 millions de francs CFA, voire plus.
Ça revient à peu près à 5 000 euros. Ça revient à peu près à 5 000 euros.
4 000 à 6 000 euros. Mmh. 4 000 à 6 000 euros, à peu près.
Donc, très peu de monde qui est capable de débourser une telle somme, en tout cas de le débourser dans l'immédiat, sans faire appel à la communauté, à la famille, voire aux générations suivantes.
Exactement.
Donc, on l'a bien compris, hein, encore là, des améliorations très importantes attendues du côté de ce secteur de la chirurgie cardiaque. Merci infiniment pour toutes ces précisions, docteur Jérôme Boumbi. Je rappelle que vous êtes cardiologue à l'hôpital général de Yaoundé.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Alors, on aborde la dernière partie de notre entretien, professeur Mamadou Bokary Diarra. On a bien entendu avec cet exemple du Cameroun, là aussi, beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, beaucoup de chemin à parcourir, parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, comme on l'a entendu tout à l'heure dans ce que vous nous disiez en citant ce chiffre très important de plusieurs milliers d'enfants sur la liste d'attente, que vraiment on n'a pas encore les ressources suffisantes pour prendre en charge l'ensemble des cas d'insuffisance cardiaque au niveau pédiatrique et bien évidemment également au niveau des adultes, professeur.
Oui, Madame Paré, oui, je remercie en passant le docteur Jérôme Boumbi, je le félicite pour son intervention. Ce qu'il a dit, c'est une réalité. Le Cameroun, si je vois les statistiques de la Banque mondiale, c'est un pays relativement beaucoup plus aisé que mon pays. Et donc, vraiment, c'est à la fois un honneur, une joie. Je me félicite de cette amitié du professeur Deloche envers mon peuple pour avoir permis la réalisation de ce centre-là. Je remercie encore une fois Mme Festock et la Providence pour avoir permis. Tout ceci ont contribué à la naissance de ce centre dans un pays très agité en ce moment et qui voit une perle descendre du ciel qui est le centre Festock pour donner de l'espoir à nos enfants maliens. Donc, vu la modicité de nos moyens, vu la haute technicité que requiert ce genre de structure, il serait bon que les Africains, entre eux, fassent une sorte de collaboration sud-sud, qu'on se donne la main pour qu'ensemble nous puissions mutualiser nos efforts, qu'il y ait au moins un centre dans tous les pays et qu'ensemble nous participions à la formation des experts qui doivent animer ces différents centres-là. Parce que je vois mal un pays tout seul arriver à bout sans la contribution, sans le concours. Parce que depuis que le centre existe au Mali, des pays voisins qui n'ont pas eu cette chance-là sont en train de frapper à notre porte pour pouvoir bénéficier de la prise en charge au niveau de nos structures.
Ça veut dire qu'il y a d'autres enfants qui voudraient être soignés, qui viennent des pays voisins?
Des pays environnants, des ONG qui opèrent dans ces pays environnants-là, qui viennent nous demander de les prendre en charge au niveau de Bamako, parce que ça leur revient beaucoup moins cher que de les expatrier en France. Nos remerciements, il ne faut pas que l'on oublie, s'adressent également à la chaîne de l'espoir et aux différentes associations qui, depuis le début de notre combat, se sont mis ensemble pour qu'au jour d'aujourd'hui, il y ait plus de 600 enfants maliens qui ont été opérés en France. Ça, ce n'est pas du tout négligeable. On ne le dit pas souvent.
Il y a le double mouvement. Il y a en même temps des enfants qui partent en France.
Il y avait des enfants qui partaient en France, mais ce nombre est des plus restreints, parce que c'était 40, maximum 50 enfants par an. Là, vous voyez, depuis le 10 septembre, nous avons opéré plus de 50, donc ce n'est pas du tout comparable. Mais il faut remercier les autorités, les structures qui ont permis de prendre en charge plus de 600 enfants au jour d'aujourd'hui. Ça paraît faible, mais c'est immense, parce que si vous aviez un enfant dans votre famille qui souffre de cette pathologie et que vous aviez par le passé bénéficié d'une telle prise en charge, vous ne pouvez que louer la providence.
Et il y a une double problématique en plus, parce qu'il y a tout le côté hospitalier chirurgical, mais il y a aussi l'accueil de ces enfants. Il faut les loger, il faut leur trouver un environnement, il faut leur trouver une famille.
Ils viennent sans leurs parents, c'est souvent des conflits à l'intérieur de ces personnes fragiles-là, qui font que des fois, même à leur retour dans nos pays, ils ont du mal à se réadapter, parce qu'ils ont vu mieux. J'ai vu des enfants refuser de repartir chez leurs parents, parce que c'est un rappel de souvenirs douloureux, de difficultés avant l'intervention. Ils pensent que maintenant ils ont touché l'Eldorado et qu'il vaut mieux en rester là.
D'où l'intérêt d'opérer à Bamako, rester dans le cadre.
Ça, c'est plus qu'un intérêt, c'est une nécessité, parce que nous ne pouvions pas être toujours là, surtout attendre indéfiniment la main aux autres. Il est temps que nos structures se prennent en charge, que nos pays se prennent en charge et que nous commencions à former des gens, à réunir les ressources nécessaires, parce que la chaîne de l'espoir a mis nos pieds à l'étrier, à nous maintenant d'aller de l'avant pour que vraiment nous puissions répondre à l'attente de nos populations. Je n'en doute point, parce que le ministre de la Santé actuel, c'est un médecin, et il est plus sensible à ce genre de problème, il est outillé pour pouvoir comprendre ce genre de situation, et je ne doute pas que à l'avenir, ils puissent vraiment retrousser les manches pour résoudre ce genre de problème qui se pose de façon plus qu'aiguë à nos différentes communautés.
Parce que la santé, c'est aussi une priorité politique. Merci infiniment, professeur Mamadou Bokary Diarra, d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes cardiologue et directeur de l'hôpital Mère-Enfant Le Luxembourg à Bamako, au Mali. Sport et santé, tout de suite, on en parle dans Priorité Santé. C'est bien sûr en votre compagnie, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Aujourd'hui, on va parler des crampes. Ces crampes musculaires, un problème courant chez les sportifs, mais également chez celles et ceux qui ne font pas forcément du sport. Souvent, c'est plutôt bénin, on ne prend pas ça très au sérieux. Mais malgré tout, ça mérite des explications. Docteur Sen, première chose, la crampe musculaire, ça vient d'où?
Une crampe musculaire, c'est une contraction musculaire qui est involontaire, très intense, douloureuse et qui touche un muscle qui va devenir extrêmement raide. Alors c'est vrai que souvent, ça intervient plutôt la nuit, mais ça peut tout à fait apparaître aussi au cours d'un exercice. Alors, généralement, cette crampe disparaît spontanément au bout de quelques minutes, mais le muscle peut rester encore légèrement sensible. Alors, ça touche quoi? Souvent les membres inférieurs, le mollet, c'est très très souvent le mollet ou dans le pied, mais ça peut toucher aussi des fois les mains, hein. Par exemple, on parle de crampe de l'écrivain lorsqu'il y a des efforts manuels qui sont prolongés. Alors, le mécanisme n'est pas très bien connu. Néanmoins, on pense que notamment certains déséquilibres en eau, en sels minéraux, peuvent perturber comme ça la commande nerveuse et faire que le muscle ne se relâche pas. Et puis, certaines circonstances aussi favorisent leur apparition. Bah, si on est déshydraté, si on utilise certains médicaments, les diurétiques, les laxatifs, hein, certaines maladies endocriniennes ou neurologiques peuvent favoriser ça. Et puis, certaines intoxications à certains métaux ou bien des venins d'animaux favorisent également les crampes.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit en cas de crampe?
Bah, en fait, elle peut être soulagée rapidement grâce à quelques gestes simples. L'idée, c'est d'étirer et de masser un muscle atteint par la crampe. Par exemple, s'il s'agit du mollet, eh ben, il suffit de lever la jambe, tendre au niveau du genou, et puis ramener progressivement la pointe du pied vers vous. Une fois qu'on a réalisé cet exercice, on peut essayer de marcher un peu comme ça sur les talons pendant quelques minutes pour essayer de soulager son mollet. Et puis, bien se réhydrater, surtout en buvant beaucoup d'eau pour justement éviter cet état de déshydratation qui favorise la crampe.
Et docteur Jean-Marc Sanne, est-ce qu'il y a des conseils en matière de prévention pour éviter les récidives?
Hydratation, ça c'est vraiment, je crois que c'est vraiment le mot d'ordre. Il faut essayer de manger sainement aussi avec des aliments qui vont être riches en magnésium, parce que ça diminue les crampes. Alors, les bananes, le riz, les germes de soja, le pain complet, tout ça favorise. Et puis, faire régulièrement des étirements ou de la marche, un peu de sport, pour essayer de préparer le muscle et lui éviter de surtravailler. Pas hésiter avant un effort, de bien s'échauffer et puis terminer par des exercices de relaxation musculaire.
Est-ce qu'il y a des cas, malgré tout, qui poussent à consulter un médecin quand on a des crampes qui font trop mal, on va dire, ou trop fréquentes?
Mais oui, absolument. Bon, il faut rappeler que la plupart du temps, une crampe, c'est une affection bénigne. Hein. Donc, en fait, on va consulter un médecin lorsque la crampe, par exemple, n'est pas isolée. Par exemple, si la douleur est prolongée, si le muscle est douloureux, mais il n'y a pas de contracture, c'est que c'est autre chose. Hein. Si on a un pied qui est très froid, pâle, là, ça pose aussi un souci. Et puis, à l'inverse, si on a une jambe chaude, enflée ou de la fièvre, bah, c'est pas une crampe, c'est autre chose, il faut consulter un médecin. Si les crampes se répètent souvent aussi, c'est pas normal. Et puis, il y a certains médicaments hein, qui peuvent favoriser les crampes. On a parlé des diurétiques, des laxatifs ou certains médicaments contre le cholestérol. Là aussi, il faudra consulter son médecin pour véritablement savoir si c'est ce médicament qui favorise la crampe. Il faut surtout pas, bien sûr, l'arrêter soi-même. Et puis, si ces crampes interviennent dans un contexte d'intoxication, évidemment, là aussi, il faut consulter le médecin.
Alors, quelle prise en charge thérapeutique, justement, quelle prise en charge peut proposer alors le médecin si ces crampes persistent?
Eh bien, lorsqu'il y a une maladie, le médecin va traiter la pathologie. On a dit endocrinienne ou neurologique, va traiter la pathologie qui est responsable de la crampe. Il y a les méthodes de prévention sont vraiment importantes. Et puis, il y a aussi des traitements symptomatiques. Hein. Bon, certains médicaments, le paracétamol contre la douleur, ou alors des médicaments qui contiennent de la quinine. Mais il ne faut pas oublier que ça, c'est vraiment, tout cela sont des traitements d'appoint qui doivent être transitoires. C'est-à-dire que normalement, au bout de quelques semaines, 3-4 semaines, on doit voir les crampes diminuer, voire disparaître, ou en tout cas avoir une diminution significative. Si ce n'est pas le cas, là encore, il faut reconsulter son médecin. Si à partir du moment où ces crampes ont disparu, eh bien, il faudra arrêter le traitement médicamenteux et utiliser uniquement les méthodes de prévention que l'on a vues plus haut. Donc voilà, j'espère qu'avec tous ces conseils, nos auditeurs pourront soulager leurs muscles lorsque ceux-ci se font sentir.
Merci beaucoup docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassène, Baptiste Madinier, Didier Bleu. Demain, nous évoquerons la question du cannabis thérapeutique, débat sur son efficacité pour lutter contre la douleur et puis état des lieux sur sa législation, légalisation ou pas. Si vous voulez témoigner, posez une question, notre numéro 33 1 84 22 75 75 et bien sûr notre page Facebook. On se retrouve demain.
C'est Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre